Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode et je suis aujourd'hui avec quelqu'un qui n'est jamais passé dans le podcast. Elle s'appelle Johanna Sebag et c'est la fondatrice de Dress Code, le bureau de presse. Bonjour Johanna.
Bonjour Adrien, tu vas bien ?
Très bien et toi ?
Ouais, ça va.
Cool. Bah écoute, en tout cas, moi je suis ravi de t'avoir dans Entreprendre dans la mode. On se connaît depuis quelques mois maintenant. J'ai interviewé plusieurs de tes clients et donc je suis ravi de revenir sur toute ta carrière, sur toute ta vie parce que je trouve que tu fais partie de ces gens qui ont monté des boîtes assez impressionnantes et on va revenir dessus, mais j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire de Johanna Sebag. Donc ma première question, c'est est-ce que déjà tu pourrais te présenter et puis revenir un petit peu sur ton parcours, même revenir à ta plus tendre enfance. J'aime bien cette question-là. Tu sais, où est-ce que tu as grandi, tu as fait quoi comme études, c'était quoi tes premières expériences professionnelles, etc. Et puis je te poserai aussi une autre question. Ça, c'est en bonus. Est-ce que tu peux fermer tes emails parce que ça fait des petites... des petites notifications et ça risque d'être un petit peu embêtant.
Hop. Voilà, écoute, normalement j'ai tout fermé. C'est l'ordi de Damien, mais...
Ok.
Ça va là ? Là, ça a l'air de...
Si c'est, ouais, si là, ça c'est bon là.
Voilà.
Ouais, ça marche. Nickel, ouais. Vas-y. Je te laisse te présenter.
Alors donc, Johanna Sebag, je suis la fondatrice de Dress Code. Donc j'ai monté le bureau il y a 15 ans. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis dans ce métier, donc de la communication. J'ai toujours été passionnée de mode depuis ma tendre enfance, puisque de toute façon, j'adorais m'habiller déjà petite. J'avais vraiment le goût du vêtement, de pouvoir mixer les vêtements les uns avec les autres. C'est vrai que ma mère a toujours eu beaucoup de goût et c'est vrai que du coup, elle m'a fait faire beaucoup de boutiques. On allait beaucoup chiner ensemble, regarder, que ce soit en déco ou en mode. Donc, elle m'a donné vraiment ce goût de la mode. Et c'est vrai que mes amis à l'époque me disaient toujours, elle est vraiment fan de mode. Et même ceux que j'ai retrouvés, enfin, j'en ai revu récemment, ils m'ont dit, mais c'était sûr que t'allais en faire ton métier. Alors, j'étais pas prédestinée à ça au début, puisque après le bac, je suis allée en fac de droit à Malakoff. J'ai effectivement fait plusieurs années de droit. Et puis, un jour, comme je suis vraiment, je suis toujours à fond dans ce que je fais, une battante. Et même si, voilà, j'avais des notes correctes, j'aimais bien, je me sentais pas passionnée. Et quand on manque de passion, forcément, pour moi, on va pas à fond dans ce qu'on fait. Et puis très vite, c'est vrai que je voulais me spécialiser en propriété intellectuelle dans la mode, tout ce qui était copie et plagiat. Pour annoncer à mes parents que je voulais arrêter le droit, ça n'a pas été facile puisque je voulais vraiment être avocate dans la propriété intellectuelle. Et j'ai décidé, quand je leur ai annoncé, ça a été une catastrophe. Alors je leur ai dit, je vais me mettre, si vous voulez, dans les assurances. Très vite. J'ai voulu m'inscrire dans les assurances, j'ai été dans l'école, je me suis dit c'est pas possible, c'est vraiment pas pour moi. Et là je me suis dit je vais prendre mon destin en main, je vais leur dire voilà c'est ça et pas autrement. Et je veux faire une école de communication, donc me voilà en école de communication. Et très vite J'ai commencé des stages dans la mode parce qu'on est d'accord que dans ce genre d'école, tu valides un diplôme de communication, mais c'est vraiment sur le terrain que tu apprends parce que c'est vraiment que de la théorie sinon. Donc, c'est beaucoup mieux de faire de la pratique dans la communication notamment. Et j'ai commencé un premier stage chez Catherine Mirand d'ailleurs. Et j'ai beaucoup appris parce que je regardais beaucoup, j'étais très curieuse et je pense qu'il faut être très curieuse dans ce métier. Et donc c'était dans les premières années, donc je te parle de ça il y a genre 23 ans. J'ai fini ce stage, j'ai été prise dans un autre bureau de presse qui faisait beaucoup de beauté à l'époque, avec un secteur mode qui n'était pas encore très développé. Cette femme m'a beaucoup appris, c'est Annette Josso, c'était une agence qui était vraiment développée dans la beauté, tout ce qui était vraiment les cures, les spas, les hôtels. Et elle m'a donné la chance de pouvoir développer la mode dans ce bureau, et je la remercierai jamais assez parce qu'en fait j'ai été un petit peu livrée à moi-même. J'ai monté une équipe, j'ai tout fait de A à Z, j'ai commencé à prospecter, je sillonnais les salons du monde entier toute seule. Et ça m'a énormément aidée, en fin de compte. Quand tu es sur le terrain, tu apprends beaucoup. Et c'était une période très riche. J'y suis restée pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, j'ai été contactée par pas mal de bureaux. Et d'ailleurs, j'ai rentré des belles marques comme Maje au sein de cette agence. Et Annette, ça a été une femme exceptionnelle. Parce que quand j'ai voulu monter le bureau, je me suis confiée à elle. Elle m'a dit, Johanna, c'était sûr que vous aviez envie de vous développer. Vous avez vraiment quelque chose. Et elle m'a laissé m'épanouir et même reprendre certaines marques que j'avais rentrées. Et j'ai trouvé ça vraiment très gentil de sa part. Ça, on voit pas beaucoup ce genre de
comportement, d'action.
Et c'est vrai que du coup, je me suis lancée il y a 15 ans complètement. Ça a été une période où j'ai vraiment foncé. Une période où
t'étais hyper jeune, parce que là t'avais quoi, t'avais 25 ans quoi?
J'avais 28 ans à peu près.
Ouais.
Et c'est une période où même personnellement j'ai tout recommencé puisque je me suis séparée à ce moment là et je me suis j'étais mariée, donc je me suis séparée, donc ça a été un chamboulement total dans ma vie où je me suis dit c'est bon, j'y vais. Et j'ai carrément, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai fondé Dress Code, et pour moi ça a été, un vrai commencement. Puisque c'est vrai que du coup, mon mari m'a laissé totalement m'épanouir dans mon métier, et c'est ce qui m'a permis. Il m'a dit voilà, tu te bats, t'y vas. Il m'a donné les armes pour me battre. Et très vite, le bureau a commencé il y a 15 ans. Ça a été une super aventure et c'est toujours une magnifique aventure.
Ouais. Explique-nous le moment où t'as pris ta décision de passer le pas, parce que c'est... Enfin, j'aime bien revenir sur ces moments charnières où en fait tu décides de sauter, quoi, d'y aller, alors que t'étais plutôt... t'étais salarié, j'ai l'impression que t'avais quand même une bonne place, tout quitter. Enfin, c'est quoi le déclic en fait? Tu dis là, je quitte mon mec, je lance ma boîte. Il s'est passé quoi?
Écoute, tu sais, pour venir un petit peu sur ça, je remercie mes parents pour ça parce qu'ils m'ont donné beaucoup de valeurs. J'ai eu une éducation quand même religieuse et ça m'a permis d'avancer dans la vie pour avoir des bonnes valeurs. Ces valeurs m'ont permis justement. À un moment, tu sais, nous, dans la communauté, c'est un petit peu, finalement, on est un peu... C'est beaucoup de traditions, beaucoup de comportements qu'on doit... comment t'expliquer ça? Il y a des choses qui se font, des choses qui se font moins. Donc, en fait, tu te maries, tu as tes enfants, tu suis un certain chemin. Et puis, moi, il y a un moment où j'ai tout bien fait dans mes études. Je me suis mariée, et puis à un moment, j'ai eu un espèce de déclic et je me suis dit non, ça me va pas, cette vie ne me convient pas. Pourtant, j'avais ma fille de 18 mois. Hein. Et puis en fait, j'ai pris ma fille sous le bras et je suis partie et j'ai décidé, je me suis dit, il faut que je prenne mon destin en main. C'est peut-être le moment de monter ma boîte. Je t'avoue quand même qu'en 7 ans, j'ai eu le temps quand même d'apprendre beaucoup de choses. Mais même aujourd'hui, j'apprends tous les jours, donc on n'en apprend jamais assez. Et c'est vrai que... quand tu remanies ta vie totalement à, à 28, 29 ans, on va dire, tu te dis, ben, il faut foncer. Je me suis pas du tout posé de questions. J'ai changé ma vie, mais totalement d'ailleurs. Et puis, j'ai tout remonté de mes mains sans un sou et je me suis dit, bah, écoute, faut y aller. Et il y a des très belles marques comme Maje qui m'ont suivie, puisque Maje, effectivement, ça fait 23 ans que je m'en occupe. Et ça a été magnifique, une très belle rencontre avec Judith Milgroom qui m'a tout de suite suivie quand j'ai voulu monter mon bureau. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une vraie aide psychologique, parce que quand tu démarres avec des marques comme ça qui commençaient leur ascension, tout juste comme moi en fin de compte, bah voilà, tu te dis, j'ai eu la chance de croiser ces belles personnes qui m'ont aidée à évoluer, et les marques aussi qui m'ont suivie au fur et à mesure. Certaines qui sont toujours avec moi, d'autres non. Ça a été des très belles rencontres et ça te donne la pêche pour avancer, en fait. Ouais.
On va revenir à tous à cette épopée, parce que c'est vrai que ce qui est impressionnant et ce qui impressionne beaucoup de gens avec Dresscode, c'est que t'as quand même des mastodontes en tant que client et souvent t'es là au tout début de l'aventure, donc t'as vraiment le nez pour aller chercher les pépites qui en devenir. Juste avant d'arriver à ça et où tu nous racontes les différents milestones de Dresscode, j'aimerais que tu nous expliques très concrètement, t'es parti avec quoi, parce que souvent, moi j'ai une question qui revient assez souvent dans mon podcast ou en tout cas par MP, etc. C'est quand on se lance aujourd'hui, quand on entreprend. Alors aujourd'hui, on est dans un pays quand même où on peut avoir le chômage, on peut avoir des aides de l'État et encore, ça reste quand même limité, on va pas se mentir. Je veux dire, si tu touches 70% ou 60% de ton salaire, vivre à Paris, lancer un business en même temps qui demande un petit peu de sous, c'est pas si simple. Toi, t'es parti avec quoi très concrètement? T'as eu un petit peu d'aide, t'avais un petit pécule, t'avais un petit peu d'argent de côté, en sachant que bon, quand tu fais des RP, t'as pas non plus un investissement de départ énorme, quoi. J'ai l'impression que ton investissement, c'est ton téléphone et ta tchatch et ton envie, ta passion et ton réseau, quoi, non, c'est ça?
C'est exactement ça. Alors en fait, je m'étais créé un bon réseau dans le bureau dans lequel j'étais. Pour le coup, je me suis vraiment faite toute seule, c'est-à-dire toutes les relations. J'ai vraiment appris à faire mon réseau, mon network, etc.
Maintenant, comment tu fais ça d'ailleurs?
Bah, écoute, moi je fonctionne concrètement à... Je fonctionne à l'instinct, je fonctionne aux rencontres. Je mets beaucoup d'humains aussi dans les rencontres. Je suis une personne qui est très entière et je pense que ça, quand tu es entière, tu es nécessairement récompensée. Et je crois beaucoup à ça, à la droiture, au côté entier. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer et d'avoir des vraies relations avec certaines rédactrices depuis des années. Parce que quand tu travailles, quand tu travailles par passion, que tu es acharné, que tu ne t'arrêtes pas, je pense que c'est des valeurs qui sont vraiment reconnues. Et ça m'a permis aussi de créer un vrai réseau, mais un réseau de certaines amitiés que j'ai pu avoir toutes ces années. Et puis au fur et à mesure que le bureau est monté, j'ai eu accès à des gens plus importants. Et ça, c'est génial parce que tu gravis les échelons et tu as accès à des gens de plus en plus importants dans la profession. Ça, c'est sûr. Au début, Dresscode, c'était vraiment une petite agence, même si j'avais des marques comme Maje. Je m'étais occupée de Paul & Joe Sister aussi au début du lancement. J'ai commencé avec des marques comme Evou et j'ai eu la chance de rencontrer Philippe Corbin, qui est aujourd'hui la marque Léon et Harper, que j'aime beaucoup, qui est venu me voir et qui m'a donné la communication de Evou. Et c'était un vrai cadeau parce qu'il a aimé mon énergie. Alors, il m'a dit, mais pourquoi j'irai pas chez un tel ou un tel ou chez un Carla Auto, ou pourquoi je te choisirais toi? Bah, je lui dis, bah, parce que je me bats, parce que je suis une battante et je sais que je vais enfoncer les portes. Et en fait, je pense que quand tu es sincère avec et tu crois à ce que tu dis, bah, forcément, ça lui a donné envie. Et donc, j'ai pu démarrer avec des très belles marques comme ça et ça a été une vraie chance. Et puis surtout que je m'arrêtais pas, je te dis, les salons tous les week-ends. D'ailleurs, je les fais toujours autant, hein, même si aujourd'hui c'est un bureau référent, je m'arrête jamais. Dès qu'il y a un salon à l'étranger, j'y suis. Je sillonne les allées, je rencontre, je vais sur Instagram, j'y vais. Je pense qu'en fait, il faut jamais lâcher. Et comme c'est une passion, du coup, je le fais vraiment par plaisir. Ensuite, effectivement. Vas-y, continue.
Non, parce que, en disant ça, tu mets le doigt sur un truc, c'est que, le job, enfin le métier d'attaché de presse, c'est quoi en fait? Parce que quand tu dis je sillonne les salons, c'est pour faire quoi? C'est pour aller sentir la tendance, aller trouver des nouveaux clients. C'est explique-nous, c'est quoi vraiment le métier d'attaché de presse quoi finalement?
Alors déjà, effectivement, j'ai toujours eu une sensibilité pour la mode. Donc aujourd'hui, je sais répondre aux besoins des rédactrices. Je parle que ce soit... Alors bien sûr, le métier a beaucoup évolué. Au début, c'était beaucoup de print. Hein, c'était les magazines de mode, le Vogue, le Numéro, le Elle, le Madame, etc. Et c'est vrai que du coup, au fil des années, j'ai su... on va dire capter la demande de la rédactrice de mode sur son sujet. Une journaliste du Vogue ou du Elle ou du Madame ne va pas traiter le même sujet ou la même actrice de la même manière ou la même célébrité ou it girl. Et du coup, c'est vrai qu'au fil du temps, j'ai vraiment appris ça. Et mes équipes, c'est pareil, parce qu'aujourd'hui, Dress Code, c'est quand même une équipe de 30 personnes au quotidien qui se bat sur les marques. Et c'est vrai que du coup, je leur dis toujours... il faut appréhender la demande, ne jamais dire non, appeler la marque, dire voilà, il nous faut ci, il nous faut ça, non mais on peut pas, il faut cette taille. En fait voilà, c'est chez Dress Code on dit jamais non. Et du coup, quand on dit jamais non, la rédactrice elle sait qu'elle pourra tout trouver chez nous et qu'on va se battre pour elle et sa demande. Et ça je pense que c'est vraiment important de travailler main dans la main. Sur le digital, c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça s'est développé d'une autre manière parce que c'est des sensibilités différentes. Mais même une influenceuse aujourd'hui, j'arrive à connaître un peu ses goûts, son style, que t'ailles voir Loulou de saison, que t'ailles voir, Erin of Duty ou Estelle Chemouni ou d'autres filles, c'est pas du tout le même style et il faut s'adapter à leur style et on sait qu'on peut pas tout leur proposer comme à un magazine de mode parce que c'est pas vraiment la même target ou le même ADN. Donc ça, c'est hyper important aussi. Et voilà, je pense que moi déjà, même si j'ai fondé l'agence, en ce moment on fait beaucoup de déjeuners au bureau avec pas mal de rédactrices ou d'influenceuses, et c'est vrai que la proximité est très importante pour connaître leurs goûts, comment elles travaillent, ce qu'elles veulent. Elles m'appellent souvent encore sur mon portable pour que je déniche des pièces dans les marques, et ça j'adore ça. Je travaille très en amont aussi avec les marques qui m'appellent pour les collections en amont. Est-ce que tu peux me donner des conseils? J'adore ça, même sur moi. Je suis quand je dis que je suis une passionnée de mode, c'est vraiment sur moi. J'adore avoir le dernier truc, j'adore montrer, j'adore. Voilà, j'adore. Et je pense que quand tu aimes ça, nécessairement, tu l'appliques dans ton travail. Et du coup, oui, c'est vrai que, comme tu disais, moi, j'ai vu pendant le confinement, j'ai travaillé avec mon téléphone, avec mes visuels, avec les marques que j'appelais quand même pour essayer de livrer des choses pour avoir quelques shootings, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec peu de choses, on peut travailler. Maintenant, pour revenir à ta question de départ, ben, quand tu commences avec rien, parce que j'ai vraiment commencé avec strictement rien, mon père m'avait aidé au début, mais vraiment un tout petit peu, quoi. Il m'avait dit, voilà, je vais te prêter un petit peu d'argent pour t'aider, mais vraiment peu que je lui ai rendu après. Et vraiment, ça a été à force de travail, de relations et des gens qui m'ont fait confiance. Et ça a fait un effet boule de neige. Au début, on est parti d'un petit bureau. Je m'attaquais à des gros mastodons à l'époque, même aujourd'hui. Pour devenir référent, c'est pas évident d'avoir sa place sur le marché de la mode et de faire partie des agences de presse référentes. Et je peux dire que c'est que à force de relations, de travail et de ne jamais lâcher. Voilà, c'est surtout ça.
Ouais, il n'y a pas trop de secrets.
parce que c'est vraiment ma recette. Quoi. C'est vraiment
ça. Ouais, c'est ça. C'est que... Mais finalement, tous les gens que je croise sur Entreprendre dans la mode, c'est toujours un peu la même histoire. C'est, ceux qui sortent du lot, c'est quand même ceux qui ne lâchent rien et qui sont les plus bosseurs et qui sont les plus passionnés et qui ont le plus envie. Quoi. C'est toujours pareil. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur les différents milestones peut-être de Dress Code. Parce que voilà, en 15 ans, alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu es... Ouais, on peut dire quand même que tu es un des bureaux référents, ça y est. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que tu te mets dans cette case-là? Et j'aimerais bien que tu reviennes, voilà, tes premiers clients, comment tu les as trouvés, comment tu as été les chercher. Et que tu nous parles aussi de tes clients, parce que tu as parmi eux des gens comme Cézanne, des gens comme Maj, comment s'appelle la joaillerie, là, j'ai perdu le nom. Tiffany, c'est quand même des marques qui... C'est pas n'importe qui, quoi. Donc, comment, Comment tu as été les chercher, ces gens? Raconte-nous cette épopée Dress Code.
Alors, au début, en fait, effectivement, donc, il y a certaines marques qui m'avaient suivi, d'autres que j'ai rentrées au fur et à mesure de Dress Code au début. Donc, on a commencé, si tu veux, effectivement, à avoir ma marque, on va dire, référente, pionnière, et ma marque de quand je dis d'amour, façon de parler, mais c'est vraiment Maje, parce qu'effectivement, j'ai commencé avec Maje, très belle ascension, très belle communication, la marque, elle a su se renouveler, il y a des très beaux codes dans cette marque, et en 22 ans, j'ai vu tellement de choses, on est passé d'investisseurs, de fonds, de groupes, et on est toujours là, encore une fois, je le répète, parce qu'on a su s'adapter, on a su aussi évoluer avec Maje, même quand eux étaient totalement aux mains de certains groupes, etc., comme c'est le cas aujourd'hui, et ben on a su évoluer avec eux. Au fur et à mesure, c'est vrai que je me suis dit, bon bah au début, il y a peut-être des marques qui n'iront pas forcément chez Dress Code, parce qu'on n'était pas référent à l'époque. Et on a pris à 9 ans des bureaux à Étienne Marcel au début de 500 mètres carrés. Aujourd'hui, on en a 800. J'ai envie de dire que j'ai donné envie. En fait, c'est moi qui parle aux marques parce que c'était dur, tu sais, de capter certaines marques. Au début, on était vraiment très prêt-à-porter, de luxe accessible, abordable. Donc, avoir accès à certaines marques ou à certains designers, bah, c'était pas si facile parce que le luxe amène le luxe. Et je me suis donné comme challenge de rentrer déjà tout un département des designers avec des marques comme Dada, comme Mazarine, comme Oud, comme Carolina Ritzler qui est devenue Hellos ou d'autres marques. Et je me suis dit, c'est pas grave, même si moi j'étais plus dans du luxe accessible, des marques de prêt-à-porter comme des Maje, comme des Claudie Pierlot, des Mesdemoiselles, des Léon et Harper, American Vintage. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, il faut que je crée quand même une autre structure beaucoup plus, donner ma caution, mon savoir-faire à ces designers, même des marques qui débutent. D'ailleurs, on a été à l'origine aussi du succès de Dada, Diane Ducasse, qui avait vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de talent. Et j'étais très contente qu'elle rentre chez nous et elle est toujours avec nous. Mazarine aussi, Hélène Timsit qui a vraiment beaucoup de talent également et qui a gagné des prix et qui a fait des super défilés pendant la Fashion Week. Et je me suis dit, il ne faut pas s'arrêter là, il faut développer. Et la joaillerie, tout d'un coup, moi j'adore ça. J'adore la joaillerie, je trouve que c'est un univers passionnant, l'horlogerie aussi. Les rencontres se sont faites très vite, c'est-à-dire que Jacob & Co, il avait entendu parler de moi, il m'a appelé en FaceTime et on a décidé de collaborer ensemble en FaceTime alors que l'horlogerie n'était pas mon secteur d'activité premier. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais me nourrir, je vais apprendre et c'est ce que j'ai fait des formations horlogères. Donc en fait, si tu veux, les choses, elles sont venues, je me suis pas dit, faut que je me spécialise. Les choses, elles sont venues un peu comme ça, des opportunités que j'ai su saisir. Et je me suis dit, bah, c'est important de les saisir et d'en faire des vrais pôles. C'est ce que j'ai fait avec la joaillerie au début, avec des marques comme AS29, Jackie Aish, que je représente à Los Angeles, qu'on aime beaucoup par son style. Et du coup, bah, tout de suite, il y a eu une compète Tiffany sur le marché. Et je me suis dit, bon, bah, concrètement, on s'occupe de Merci, on s'occupe de marques un peu lifestyle comme Cézanne. On a quand même un secteur joaillerie, de designers de joaillerie comme Nikos Koulis, Fernando George, etc. Mais pas au point de prendre une marque de la américaine, énorme, Place Vendôme. Bon. Et puis, avec les équipes, on s'est dit, on lâche pas. Si on l'a, c'est génial. Si on l'a pas, et ben on va se donner les moyens pour en avoir d'autres. Donc, on a fait une magnifique mise en scène. L'équipe est venue, l'équipe de Londres est venue nous voir. On a loué une galerie. On a fait une vraie recommandation d'action. On les a mis en situation comme une journaliste. On a pris un chef qui a cuisiné devant eux. On leur a fait une super reco. Et là, ils se sont dit, ils ont tout compris. Ils nous ont mis en immersion avec la marque comme une journaliste. Et en fait, du fait de leur faire vivre une expérience, eh ben, ça leur a donné envie de venir chez Dress Code. Donc, t'imagines, quand j'ai dit j'ai gagné Tiffany & Co, pour moi, c'était mais magnifique, quoi, le Graal. Et jamais j'aurais pu penser. Et aujourd'hui, on est avec eux, ça fait 3 ans, on a des super résultats, ils sont contents, on adore travailler, on travaille en synergie avec les équipes. Et voilà, donc, c'est super et je pense qu'on va encore plus développer la joaillerie. Là, c'est vrai que je me suis beaucoup consacrée aux marques que j'ai aujourd'hui comme Percé, Jackie Aish, Tiffany & Co. Je fais très attention aussi à pas en rentrer beaucoup parce que c'est des secteurs qui sont très concurrentiels, donc on fait aussi très attention. Il y a quelques mois, on a rentré Vanessa Bruno. Pareil, c'est une vraie personnalité. J'adorais m'habiller en Vanessa Bruno et j'ai toujours des paillettes dans les yeux et j'ai toujours ces paillettes et c'est ce qui me fait avancer. C'est que je suis jamais lassée. J'ai toujours l'envie d'aller plus loin et le fait d'avoir toujours ces paillettes dans les yeux et de me dire que tout peut s'arrêter demain, ben ça me donne encore plus de niaque.
De niaque, ouais.
Voilà. Et c'est vrai que Vanessa Bruno, pour moi, c'était quand elle a dit « je viens chez Dresscode », j'étais toujours pareil, hyper contente. Je me suis dit « c'est canon » parce que je m'habille en Vanessa Bruno il y a 20 ans. J'adorais ça, je continue de m'habiller. Au début, ça, on en a entendu un peu moins parler. Et là, le fait de revenir, Vanessa, elle a fait des lives avec nous, elle s'est reconnectée avec sa communauté. Pour moi, ben, je trouve que c'est un vrai succès, quoi. Je suis hyper contente. Et puis, Cézanne, alors, très belle histoire. Il y a 7-8 ans, elle vient me voir avec Corentin Petit, son associé, voilà. C'est des composantes, ça va s'appeler Cézanne. C'est la contraction de mon nom et mon prénom. Voilà, je voudrais devenir un nouvel acteur sur le digital. Et puis, elle m'explique un peu son projet. Et puis, moi, je me dis, ah oui, c'est quand même très ambitieux. Est-ce que tu veux faire partie de cette aventure? Je fais, écoute, l'aventure me plaît énormément. On va changer les modes de consommation, de communication. Et ça me plaît beaucoup. Et voilà, et c'est une histoire qui dure depuis 7 ans. Et on les accompagne. C'est une vraie rencontre humaine, comme celle que j'ai pu faire avec Judith Milgrom. Et voilà, c'est que des histoires de rencontres, en fait, Dresscode. C'est ce que je m'aperçois vraiment que c'est vraiment ça. Et là, dans les nouveaux venus, on a gagné la compète Etam en plein confinement. Donc, ça a été une vraie surprise. Et voilà, pareil, on est en train de leur faire un très beau showroom pour eux. On est en train de tout mettre en place. Belle énergie avec mes équipes. Donc voilà, c'est des belles histoires qui se construisent avec Dresscode. Certaines histoires sont très longues, comme American Vintage depuis 10 ans. Pareil, une vraie envie de continuer, de bousculer les codes de cette marque. Donc voilà, quand on rentre chez Dresscode, on sait qu'en tout cas, il y aura beaucoup d'humains, d'énergie, de travail. Et je pense que ce qui a fait le succès de Dresscode depuis 15 ans.
Ce que je me pose comme question, c'est d'où vient cette... cette ambition gargantuesque, quoi. Ça paraît fou parce que souvent quand je parle avec les journalistes, on se dit c'est marrant parce que Johanna, c'est un tout petit bout de femme, mais elle prend toujours des clients de plus en plus importants. Dresscode, ça grandit, ça grossit, mais elle en veut encore, quoi. Elle a toujours cette niaque et cette envie de grandir, de grossir et de devenir le number one, quoi. Et je me pose toujours cette question, c'est d'où vient cette envie, cette niaque, d'où ça sort, quoi?
L'envie, comment dire? En fait, je crois que c'est en moi, c'est-à-dire que je suis toujours je suis satisfaite et insatisfaite, c'est-à-dire que je me dis on peut encore aller plus loin, on peut développer, on peut faire plein de choses et je suis énormément sur le terrain. Donc, je comprends les envies, que ce soit du digital, parce qu'on a développé le digital il y a 10 ans avec un vrai département influence de 7 personnes aujourd'hui avec la stratégie d'influence. Tous les jours, franchement, Adrien, tous les jours, j'apprends. On se fait des réunions avec les équipes et on se fait des brainstorms de nouveaux cas. On est challengé par nos marques actuelles et des marques qui viennent nous voir pour des recommandations d'action. Et on essaye de se... Ben c'est ce qu'on a fait là dans les dernières compètes. On essaye d'aller plus loin, de trouver des nouvelles idées. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Et on se triture vraiment l'esprit pour trouver les bonnes actions.
Pardon.
Je suis tellement avec mes équipes au jour le jour que du coup, je ne vis pas ça de loin. Je vis ça vraiment au quotidien. Et tous les jours, j'apprends. Le digital, j'apprends, là je vais me faire une grosse formation digitale encore plus pour vraiment tout le wording, tout ce qu'il faut connaître, parce que là on a commencé des missions de community manager, notamment pour Sonia Riquel qui vient d'être lancée. Donc on s'occupe de leurs réseaux sociaux, de l'influence, de la presse mode, Et ça, c'est génial parce que c'est un monument, on va dire. Ça fait partie vraiment du patrimoine français. Et ça, c'est génial. Et du coup, bah, il faut que je sois à la page de tout ce qui se passe. Donc, du coup, j'apprends tous les jours, comme tout est en train de beaucoup changer, notamment par rapport à la mutation de tout ce qui se passe. Mais avec ce Covid, il faut se réinventer. Et du coup, tous les jours, je me dis, bon, alors maintenant, dress code, c'est quoi? Ok, on en est arrivé là. Mais en fait, je me bats avec mes équipes, pour mes équipes, parce que je me dois déjà de tenir la barre tous les jours sans jamais lâcher, et ça fait vraiment partie de moi, quoi. Donc oui, effectivement, quand je te dis que je suis partie de rien, c'est la vraie vérité, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je me dis que je suis arrivée à quelque chose, mais que c'est jamais assez, parce que tu sais que la chute, elle peut toujours être... on peut très vite descendre et on met plus de temps à monter. Mais en tout cas, au quotidien, je me dis, voilà... On a la chance d'être là tous les jours. On se bat. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Est-ce que les marques continueront de nous faire confiance? Il y a peut-être d'autres bureaux, d'autres choses qui vont arriver. Et ben, c'est pour ça que tous les jours, je me renouvelle et que je me dis, bon, bah, c'est peut-être jamais assez. Il faut y aller, développer d'autres secteurs. Pourquoi pas le lifestyle, les hôtels, la food. C'est vraiment des choses qui m'intéressent beaucoup. J'adore la déco. Je suis vraiment passionnée de ça aussi. Tout ce qui est vintage, tout ce qui est, j'adore ça. Et d'ailleurs, voilà, c'est les nouveaux axes de développement pour Dress Code. Donc oui, c'est vrai que je m'arrête jamais et que j'ai une vraie énergie. Alors j'espère que ça continuera encore longtemps, mon énergie, ouais. Et que ça, c'est sûr.
C'est clair. Explique-nous comment est organisé Dress Code. Et enfin, l'autre question que j'avais, c'était... dans quelle mesure vous êtes force de proposition auprès d'une marque? Comment vous travaillez main dans la main avec une marque? J'ai toujours du mal à comprendre l'implication d'un bureau de presse dans la stratégie de communication d'une marque. Dans quelle mesure vous impactez la stratégie de communication d'une marque? Parce que souvent, je pense que la plupart des gens se disent, ok, bah, l'attaché de presse, il fait un CP, il fait un dossier de presse, il l'envoie à ses contacts et puis il les relance pour avoir un article et basta, quoi. Alors que quand je t'entends parler, j'ai le sentiment que ça va quand même un petit peu plus loin que ça. Et je pense que ça va un peu plus loin que ça. Explique-nous concrètement, quand tu rentres un nouveau dossier ou même quand tu travailles avec un autre client, avec un client historique, dans quelle mesure tu es impliqué dans la communication et la stratégie, quoi?
Alors, déjà, Dress Code, c'est 4 départements. On a un département Product Placement Off et Online, hein, qui sont quand même la base d'un bureau de presse. À la base, c'est ça. Après, il y a eu vraiment les webzines qui se sont rajoutés, qui sont devenus aussi très importants pour la visibilité. On a un département d'influence de 7 personnes avec une vraie stratégie d'influence, une spécialité aussi marketing com, qui est, voilà, là, c'est ce que je vais t'expliquer. On va monter, on va tirer le fil, on va faire tous tes prétextes à communiquer, un anniversaire, une nouvelle ligne. On essaye toujours de marketer les choses et toujours de prendre la parole avec un temps très cadencé, avec un vrai rétro-planning. Et aussi, tout un secteur un peu plus talent et célébrité et leader d'opinion, puisqu'aujourd'hui, un architecte est leader d'opinion, un chef, une chef, une décoratrice, voilà, une it girl, tout le monde peut être leader d'opinion à sa façon. Donc voilà, on est aujourd'hui vraiment bien, tout le monde a une bonne spécialité dans le bureau, on est à peu près 30 personnes. Et le but, c'est de réfléchir. Alors, tu as des marques comme Maje qui se renouvellent beaucoup. Ils sont devenus très virales avec Maje, Mike, Dog and I. Il y a eu First Stone sur le côté co-responsable. On a eu pas mal de belles actions. Là, on continue beaucoup de se renouveler. Ils nous challengent à chaque saison. Par exemple, là, ils nous ont donné un peu tout le wording de leur prochaine campagne et saison. Et il faut qu'on réfléchisse, qu'on leur fasse les temps forts, comment on compte communiquer. Et on travaille vraiment main dans la main. Et puis, il y a des marques comme Cézanne qui sont devenues totalement éco-responsables puisque la majorité de leur production à 80% est sustainable. Et c'est vrai que du coup, voilà, il y a tout un storytelling à faire. Quels mots-clés on utilise? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on... Bon, là, évidemment, ça a été un peu bouleversé avec le Covid. Mais en tout cas, le but est de prendre la parole. On aime bien travailler des marques dans le fond. Et ça, c'est génial de pouvoir parler d'une créatrice, d'une DA, de profiter d'une DA pour prendre la parole, qui est aussi un super prétexte à communiquer. Quand une marque, là, on va fêter, par exemple, les 40 ans de Guess, et ben là, ils nous ont dit « réfléchissez ». C'est Paul Marciano lui-même qui nous a dit « réfléchissez à une stratégie, je vous suis, on y va, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ?» Toujours très digital, parce qu'aujourd'hui, quand tu crées une stratégie, faut la créer finalement du début, qui va être du print dans le temps, puisque évidemment le print se travaille plus en amont que le digital qui est totalement instantané. Et du coup, on essaye de créer un rétro-planning avec des moments forts de communication. Donc oui, la simple attachée de presse au début que j'ai connue il y a 22 ans, où tu prenais ton téléphone, tu montrais une robe rose et puis ça suffisait, c'était super. Bah aujourd'hui, ça n'existe plus. Notre métier a beaucoup évolué. Notre métier, c'est pour ça que j'ai créé ce département de communication il y a 10 ans, marketing com stratégie, et ce département digital. On a été vraiment le premier bureau à créer du digital il y a 10 ans. Avec Margot Selva qui est maintenant chez Cézanne et qui était une blogueuse à l'époque et qui nous a appris un peu les rouages du digital. Et c'est grâce à Sylvie qui bosse avec moi, qui est mon bras droit depuis 12 ans maintenant, qui m'a accompagnée dans ce projet. Toi, tu aimes la mode, tu aimes le style, mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut du contenu, il faut du fondement. Et c'est ce qui nous a vraiment aidé à devenir un bureau référent, c'est qu'on réfléchit, on aide le client et on travaille main dans la main. Sans ça, aujourd'hui, ça devient compliqué. Même pendant le Covid, on a trouvé des stratégies d'après-crise. On les a aidés aussi à prendre la parole pendant le Covid, que ce soit sous forme de live qu'on a fait avec Dress Code ou mettre des gens en interaction les uns avec les autres. Et voilà, c'est ce qui a fait qu'on est toujours là aujourd'hui, en tout cas. Et on les aide à se réinventer. Et ça, c'est vraiment la clé pour moi.
Ouais. Et comment ça se matérialise ? C'est des meetings, c'est des calls, c'est on se voit une fois par mois, une fois par semaine. Explique-moi le fonctionnement quotidien avec les marques.
Alors moi j'aime beaucoup voir les marques. Je me déplace beaucoup. En général, je suis au bureau pour certains rendez-vous rédactrices. Je fais beaucoup de meetings au bureau. On essaye de se voir au moins une fois par mois ou au moins deux, trois fois dans la saison pour élaborer la strate de com. Les produits forts aussi, parce qu'il y a aussi les vêtements à éditer. En fait, l'éditing des collections, déjà, nous, on a un très beau showroom qui est très déco. Je chine pas mal de pièces. J'adore aller au puce le samedi, dimanche, chiner des pièces. Et je trouve que le bureau, ça doit être le reflet de ce qu'on est. Le merch est important. Tous les matins, on merch comme dans une boutique. Comme ça, la rédactrice, quand elle arrive, elle a une vraie lisibilité. Tout va être très lisible pour son sujet. Et même s'il y a des pièces qu'il n'y a pas, on va aller les chercher, etc. On ne s'arrête pas qu'au simple passage d'une rédactrice. Maintenant, on a le phénomène influenceuse. Elles viennent beaucoup au bureau. Donc ça, c'est génial parce que du coup, on peut les habiller, les actrices aussi, les présentatrices. Donc, en fait, c'est hyper important d'avoir un très bel espace, de donner envie, et c'est ce que aujourd'hui on fait au quotidien. Donc ça c'est sûr qu'on a un bel emplacement, un beau showroom, ce qui est quand même ce qui aide. Ça a pas toujours été le cas, et les équipes tous les matins, vous avez fait votre merch, vous avez fait ça, et comme je suis là en même temps qu'elles, j'arrive le matin, je repars le soir. J'ai vraiment ce rythme avec les équipes qui est top, parce que du coup je pense que ça engage une certaine forme de respect envers moi, puisque je les lâche pas. Je les ai jamais lâchés ni pendant le Covid ni avant, et que ça donne une certaine énergie. J'ai peut-être dévié de la question, mais je me souvenais plus totalement. Mais
non, c'est très bien. La question que je posais, c'était comment ça se passe concrètement, quotidiennement. C'est quoi la fréquence de rencontres avec les marques ? C'est quoi les supports ? C'est quoi les outils que vous avez pour suivre ça au quotidien, parce que enfin moi je le vois bien avec Réunis, c'est enfin faire ces RP, faire ces relations presse, relations publiques, alors c'est quand même pas simple, c'est un job full time quoi, c'est hyper dur de s'organiser. Et donc ça, c'est peut-être une question que je poserais a posteriori pour les marques qui font leur RP tout seul. Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire, quels outils, comment rentrer en contact avec les journalistes, avec les influenceuses, comment tenir son son listing, etc., pour pas oublier de relancer, si jamais il faut relancer, etc. Mais d'abord, je voulais que tu répondes à cette première question de, enfin, que tu finisses de répondre à cette première question de ton fonctionnement. Ouais.
Alors, le fonctionnement, en fait, alors, déjà, les clients, ils viennent régulièrement au bureau. On fait des points réguliers, comme je te dis, une à deux fois par mois. On fait des reports hebdo, des reports mensuels avec toutes les parutions valorisées, etc. Et bien sûr, le but est ce que je leur transmets aux équipes. On appelle le client. Tu sais, quand tu parles à un client, c'est pas pareil que quand tu fais un simple mail, c'est très informel. Il faut, quand tu annonces un beau placement, un product placement sur une influenceuse ou sur une super série ou tout d'un coup sur une pleine page dans un Vogue, un Elle, un Madame. Mais là, moi, je suis tellement excitée encore aujourd'hui quand je vois le résultat d'une parution. On s'est battu pour l'article ou le papier qu'on a développé. Je suis super contente. Et pour le coup, je trouve que c'est tellement valorisant que on a envie de le transmettre à nos clients. Donc, je dis aux équipes surtout, et même moi, je le fais, on appelle le client, on transmet l'énergie, le côté positif. Et ça n'a pas de prix pour moi. Donc déjà, ils nous ont régulièrement au téléphone, ils ont nos reports hebdo, ils ont toutes les parutions au jour le jour, etc., que ce soit on, offline ou influence. On a aussi un logiciel Stellar aujourd'hui qui nous aide à quantifier toute l'influence, à savoir si c'est la bonne influenceuse pour la bonne cible, etc. Et ça nous permet aussi de bien communiquer avec les marques au jour le jour sur l'influence, qui est beaucoup plus instantané que le print finalement. On se déplace voir les marques, on fait de l'editing des collections, on fait des rendez-vous aussi dans les showrooms des marques, des déjeuners, des petits déjeuners, on organise des dîners. Il y a beaucoup de proximité avec la marque et ça, c'est aussi la clé du succès, parce que quand tu rencontres une marque, forcément, tu parles à une journaliste. J'imagine que toi, c'est ce que tu fais aussi de ton côté, c'est-à-dire que tu vois des gens, tu vois des journalistes et puis forcément, ça donne envie de peut-être passer la marque, t'as un affect pour la marque, voilà, parce qu'il y a aussi, on fonctionne aussi à l'humain, hein. Il y a aussi le contexte très annonceur, mais il y a aussi le contexte humain, qu'on aime une marque, qu'on a de l'admiration pour cette marque par rapport à son style, comment elle s'est créée, on a envie peut-être de l'aider. Donc moi, je crois aussi beaucoup à tout ça. Voilà. La proximité avec, toutes mes équipes, elles sont vraiment très très proches de leur marque. Elles les ont vraiment, pour le coup, c'est le message que je fais passer. Même pendant le confinement, on faisait des zooms régulièrement et on se disait appelle la marque. Même pendant ce moment difficile, on est proche. On essaie de trouver des solutions avec eux, adaptées. Et c'est ça qui fait, je pense, qu'une marque, elle reste dans un bureau de presse, agence de communication très longtemps. Et c'est mon cas vraiment parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont vraiment uniques de par le traitement qu'on en fait à l'agence, ouais, par rapport à nos rendez-vous et nos disponibilités.
Alors aujourd'hui, quand tu es attaché de presse, tu as une panoplie d'outils à ta disposition. Est-ce que tu pourrais nous les lister? Enfin, moi, je pense, tu vois, instinctivement à l'influence, à tes réseaux sociaux, mais bien sûr à la presse, à la télé, etc. Est-ce que tu peux nous les lister et nous expliquer un peu comment tourner ma question? Qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui? Alors, tu vas me dire que ça dépend des marques, ça dépend de ton propos, mais qu'est-ce qu'il y a de plus efficace sur le marché de la communication aujourd'hui, sur les différents médias?
Alors, bon, moi, évidemment, j'ai commencé par la presse papier, hein, comme tout le monde, comme la majorité des bureaux qui se sont montés il y a plus de 20 ans. On a commencé avec le print. Pour moi, c'est une presse qui permet beaucoup de fondements, beaucoup de il y a un storytelling fort. C'est pour raconter des histoires, pour moi, il n'y a pas mieux. Maintenant, il y a des magazines qui marchent très très bien, toujours, comme un Elle, un Madame Figaro, des magazines d'images comme le Vogue ou le Gala qui va faire un super trafic aussi. En fait, pour moi, je crois toujours en cette presse parce que c'est très important. Quand tu ouvres ton magazine et que tu vois ta parution portée t'es hyper contente, tu vois ton papier, le client, ça lui ramène quand même un trafic. Et d'ailleurs, on le voit quand on a des parutions le week-end sur des crushs ou des wanted dans un elle ou dans un madame. Eh ben, je peux te dire que la cliente, ils nous disent souvent, elles viennent avec la parution et ça continue quand même de fonctionner comme ça. Après, il a fallu se renouveler, il a fallu évidemment, donc nous, c'est ce qu'on a fait il y a 10 ans avec le digital. C'est pour ça qu'on a créé ce département. Le webzine aujourd'hui, la presse online, quand tu as une jolie parution dans un L.fr, dans les sélections des robes, des manteaux, quand tu as ta capsule, là on a une capsule canon avec Cécile Bonsen et Charlène Kiss, qui est une marque de Singapour, bah, franchement, c'est énorme en impact dans un L.fr, dans un Vogue.fr, voilà, le trafic et le nombre de vues, aujourd'hui c'est tellement énorme qu'on n'arriverait pas à avoir ce nombre de visiteurs sur le print. Donc c'est sûr que c'est un outil très important, et nous c'est pour ça qu'on suggère, dans un rétro-planning de communication, on suggère de faire les deux avec des temps forts en fait. C'est pour ça qu'il faut avoir du print dans des magazines référents, plutôt images en fonction des marques, comme tu dis, on peut pas traiter une même marque comme une autre marque. T'as des marques qui sont un peu finalement transgénérationnelles et là forcément on peut aller dans un d'un version féminin à un Vogue. Et puis t'as des marques qu'on va mettre quand dans un Vogue, dans un numéro, dans de la presse plus indé, parce qu'on va se dire que la marque elle est beaucoup plus pointue. Donc c'est pour ça qu'on fait une vraie stratégie et c'est vraiment, on étudie minutieusement le média corps, donc c'est quoi la bonne target pour la marque. Donc ça peut pas être la même pour toutes, puisque nous on est vraiment un bureau où il y a des marques de prêt-à-porter, des designers, de la joaillerie, de la lingerie, donc c'est très différent, de l'eyewear, donc ça peut pas traiter les mêmes marques de la même manière. L'influence, bien sûr, a fait son apparition il y a quelques années, des blogueuses aux influenceuses, aux leaders d'opinion, et forcément qu'il a fallu s'adapter. Donc nous, aujourd'hui, on fait carrément des vrais... Alors au début, tu sais, la presse print ne se mélangeait pas trop. Aujourd'hui, un bon événement, un bon dîner, c'est là où il va y avoir le bon leader d'opinion, la bonne influenceuse, la directrice de rédaction, la rédac-chef. Voilà, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je pense, un bon ingrédient, c'est de tout mixer, en fait. Pour moi, tous les médias aujourd'hui peuvent interagir les uns avec les autres et c'est bien pour faire une belle com d'avoir à disposition tous ces médias. Donc nous, c'est ce qu'on préconise. Maintenant, quand c'est très viral et très digital ou dans un temps donné, par exemple quand tu as un lancement de capsule qui va durer 3 semaines ou 1 mois, bah forcément qu'on va le mettre que sur le digital pour avoir plus de force. Puisqu'on n'aura pas notre timing pour la presse papier. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qu'on voit avec nos clients régulièrement. Et tout est très bien structuré chez Dresscode pour essayer d'avoir le meilleur relais de communication possible. Donc, pour moi, en fin de compte, tout est important. Il faut avoir la bonne influenceuse, aller dans le bon webzine et avoir la bonne presse papier. Et maintenant, le bon podcast qui est hyper important. Ça, t'en sais quelque chose, effectivement, parce que ça a révolutionné aussi les modes de communication. Et on s'est aperçu, d'ailleurs, beaucoup pendant le confinement, entre les lives, les podcasts, tout ce qu'il y a eu, c'est des rencontres, c'est de l'interaction. Et je pense que tu vas vaquer à tes occupations, tu mets ton téléphone, t'écoutes le podcast, et puis ça rentre beaucoup plus...
En profondeur, tu passes 1h30 avec une personne, hein, c'est puissant. D'ailleurs, c'est quoi les podcasts que vous avez en target à chaque fois? Vous essayez de placer vos marques chez qui?
Nous, c'est très entreprendre dans la mode, forcément, mais c'est vraiment ça. On travaille bien avec toi et les marques sont très, très contentes des expériences qu'elles vivent en podcast. Et puis d'ailleurs, c'est beaucoup d'écoute. Même le taux d'écoute, en tout cas, de ce que j'ai l'impression, il y a beaucoup de gens qui me disent, j'ai entendu un tel d'entreprendre dans la mode, c'était super. Donc je pense que c'est un vrai relais. Il y a les déviations qui sont super, il y a Génération XXX, il y a Chiffon, voilà. Enfin, on travaille avec pas mal de podcasts et moi, je trouve que ça se demande qu'à se développer, que c'est un nouveau mode de communication qui est important selon moi, vraiment.
Et les marques le comprennent ça ou c'est encore compliqué?
C'est encore un peu compliqué. Nous, maintenant, on le propose dans toutes nos recos d'action. Nouvelles marques ou marques qu'on a chez Dresscode, pour nous, il y a toujours du podcast. Et c'est ce qu'on a fait et que tu nous as donné l'accès à ça pour nos marques. Et ça, c'est comme des Vanessa Bruno ou d'autres que tu as pu interviewer. Et je trouve ça génial parce que pendant le Covid, le fait de les avoir interviewés, ça les a vraiment, ça les a aidés, je pense, à se sentir donner leur avis, se sentir bien, cette interaction avec toi, je pense que ça a aidé beaucoup de marques en tout cas.
Ça coûte quoi, ça coûte quoi de bien communiquer aujourd'hui et d'avoir une communication puissante, d'exister, parce que bon, on va pas se mentir, mais clairement, c'est quand même un moyen d'acquisition de nouveaux clients, que ça soit, enfin, les relations presse, relations publiques, qui est assez, qui est puissant. Et aujourd'hui, bon, il n'y en a pas 36 000. Hein, tu fais des RP ou toi, tu fais de l'achat média sur Facebook, Instagram. Enfin voilà, il n'y a pas 36 façons. Et puis après, il y a le bon vieux bouche-oreille qui coûte parce qu'il faut faire des bons produits et des bonnes images, etc. Donc c'est pas un investissement anodin, mais ça se ressent moins sur le compte de résultats. Mais ça coûte quoi de faire une bonne com puissante? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est comment tu calcules le retour sur investissement? Parce qu'on est quand même à une époque où on veut calculer tous les retours sur investissement et on veut savoir combien ça nous rapporte. Donc comment tu gères ça, et voilà, si tu pouvais nous répondre sur ces deux questions, ça serait top.
Alors déjà, aujourd'hui, pour moi, bon, quand tu vas avoir un bureau de presse, voilà, tu vas travailler avec le bureau d'une manière globale sur tous les médias dont je t'ai parlé. Et forcément, le but, nous, c'est qu'on essaye avec nos marques de leur avoir accès à tous ces médias. Alors, quand tu es annonceur, forcément, que tu achètes de la pub, que ce soit sur les webzines ou en sponsor ou sur le magazine print, forcément que ça t'amène évidemment une clé d'entrée plus facile, façon de parler, même s'il y a quand même une liberté de la rédactrice ou de l'influenceuse de porter ses vêtements. Quand tu vas payer une influenceuse pour faire une action spécifique sur un produit, bah forcément que tu sais exactement que c'est ce produit qu'elle va prendre, même si il y a quand même son libre choix aussi, quand même. Hein. Il faut qu'elle aime la marque, qu'elle sente la marque, sinon elle ne va pas se mettre dans une action. Et c'est vrai que du coup, même s'il y a ce libre choix, c'est à nous aussi d'essayer d'avoir une couverture médiatique pour la marque très importante. Donc ça, c'est quand même, ça c'est grâce à notre réseau et notre agence de presse. Donc ça, c'est pour ça que les clients nous sollicitent et nous donne un budget pour les aider tous les mois à émerger. Donc finalement, bien sûr que c'est important. Moi, j'aime bien aussi donner accès à des designers qui n'ont pas encore beaucoup de moyens ou qui essayent d'émerger par rapport à la caution dress code. C'est parce qu'on a accès à tous ces médias et que je crois encore, comme tu disais, à rencontrer les gens, à leur faire découvrir un produit, même quand il n'y a pas d'annonce presse, parce qu'ils n'ont pas les budgets. Moi, je crois encore à ça, à la caution d'un bureau de presse fort, en se disant, bon, bah voilà, grâce à cette caution, la marque, elle va quand même émerger. On a fait un regroupement designer au Ritz, toutes les Fashion Week, le Ritz Designer. J'aime beaucoup ce moment qu'on passe le premier jour de Fashion Week, parce que ça donne accès à des jeunes designers, de rencontrer toute la presse, l'influence, tous les médias d'un coup. Et je trouve ça super parce que du coup, on fait un regroupement d'une dizaine de marques qui n'ont pas forcément des gros moyens. Alors, ça peut être des one-shots, ça peut être juste récurrent, ça peut être des marques qu'on a ou qu'on n'a pas, à qui on veut donner la parole pendant une journée. Et je trouve ça génial parce que du coup, ça permet de montrer que le côté humain est là, que la personne va se déplacer grâce au réseau Dress Code, parce que c'est grâce à nous qu'elles viennent. Et du coup, encore une fois, il y a peut-être une rencontre qui va tout changer. Et ça a été le cas avec pas mal de marques qui ont rencontré des super influenceuses, qui ont continué un bout de chemin avec elles, sans nécessairement les payer. Ou voilà, ça reste très humain. Et moi, je crois encore beaucoup à ça. Et ça, c'est aussi la clé pour moi du succès d'une marque. C'est important. Donc ouais, voilà, pour nous, comment on fonctionne malgré tout, c'est avec le rouage d'un annonceur, mais peut-être aussi d'un non-annonceur, avec, quand tu dis, si tu as une belle marque, déjà, tu as 50% de gagné. Quand tu as des beaux produits, tu as vraiment la chance d'avoir des beaux produits et ça va attirer forcément l'influenceuse ou la rédactrice.
Ouais, c'est sûr. Mais ce que j'aimerais bien comprendre et valider avec toi, c'est que quand tu as une marque, donc tes clients, tes clients marques, elles payent mensuellement un fees, ou en tout cas, je ne sais pas comment tu appelles ça, mais c'est un contrat avec vous, avec Dress Code. Et ensuite, elles ont un budget, qu'elles vous disent, voilà, on vous donne, vous avez à disposition ce budget que vous pouvez utiliser pour assurer la notoriété de notre marque et mener des campagnes influence, publie rédactionnelle, etc. C'est ça, hein ?
Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un fonds mensuel et à nous de faire tout en sorte. On a une obligation de moyens, mais en général, on a énormément de résultats pour nos marques et une belle visibilité. Et quel est du budget, pas de budget, qu'elle soit annonceur, pas annonceur, on va se battre de la même manière parce que notre but, c'est vraiment… Toute l'équipe au bureau chez Dresscode est passionnée et ils me l'ont montré pendant le confinement où je te l'avais dit quand tu m'avais, quand on avait fait ce petit, cette interview Covid. C'est vrai que pour le coup… Bah, j'ai été stupéfaite par mes équipes qui ont montré leur passion pour leur marque, de tout faire pour les aider, pour Dresscode. Et ça a été génial. Et c'est ce qui nous a permis de passer cette période sereinement, puisqu'elles sont tellement passionnées par leur marque comme moi que du coup, bah, ça les aide à se surpasser au quotidien et à donner accès à des choses de grandes marques, en fait. Et ça, je pense que c'est…
C'est ouf.
C'est important. Voilà.
Ouais. Et juste pour… tout à l'heure, je te posais une autre question. C'était comment tu mesures le retour sur investissement. C'est quoi les KPIs parce que j'imagine que vous faites un reporting auprès des marques. Qu'est-ce que vous leur montrez chaque mois pour je sais pas, démontrer vos résultats, quoi.
Alors, tous les mois, on fait des reports. Donc, déjà, toutes les semaines, des reports hebdo, des parutions on et offline de la semaine et de ce qu'il y a eu comme product placement sur le placement influence. Dès qu'il y a un événement, il y a un report qui est fait. Par exemple, sur l'influence, on a cet outil donc Stellar qui nous permet de quantifier et voir tous les hashtags qui ont été liés à cette soirée ou cet événement ou cette capsule. Donc, ça nous permet de tout valoriser. Et en général, on fait… Retour sur investissement, qu'est-ce que ça a coûté, il y a eu quoi, avec des KPIs. Donc, on a des vraies analyses chez Dresscode. On travaille avec des vrais outils qui nous permettent de calculer le retour sur investissement. Quand il y a des parutions, la page de pub versus la valorisation par rapport à l'achat média qui a été fait. Ou si on n'achète pas de plan média, bah, qu'est-ce que ça aurait coûté, aurait eu quoi comme retour en valorisation. Et ça, nous, tout ça, ces outils, on les met vraiment à disposition au service marketing. Et on fait voilà des reports hebdo, des points mensuels, saisonniers et annuels avec des objectifs qu'on se donne, on se challenge et des vrais KPIs. Donc tout ça c'est bien parce que du coup c'est pas que de l'artistique. Aujourd'hui dans le contexte actuel et même depuis quelques années, on a besoin de connaître son retour sur investissement. Qu'est-ce que ça nous a apporté et qu'est-ce que ça nous a emmené, parce que la notoriété c'est toujours très difficile à quantifier. Du coup, ça nous permet d'avoir des outils pour savoir comment on a évolué et comment la marque est perçue. C'est surtout ça.
Ouais. Et tout à l'heure, je te posais une question, tu m'as pas répondu. C'était non, mais c'est pas grave. Quand t'as pas d'argent, voilà, parce que tu sais, sur Entreprendre dans la mode, bon, il y a plein de grandes marques, de grosses marques qui nous écoutent et des marques qui ont déjà un succès, etc., et qui peuvent se payer un attaché de presse et un bureau de presse. Mais ceux qui n'ont pas encore les moyens, comment on fait pour assurer ces relations presse, ces relations publiques? Comment on fait pour rentrer en contact avec d'éventuelles femmes d'influence, des influenceurs, des influenceuses ou des, comme tu disais, des leaders d'opinion? Comment est-ce qu'on fait pour créer du lien et essayer d'avoir une couverture presse et faire de l'acquisition au travers de ça, quoi.
Alors déjà, moi, je me suis toujours mis un point d'honneur à essayer de dénicher la bonne marque, la bon designer. C'est pour ça qu'on va beaucoup qu'on allait beaucoup sur les salons du monde entier. J'adore dénicher quelqu'un qui a beaucoup de talent et la faire monter. Donc la difficulté, c'est pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de fees. Il faut se battre, il faut avoir les bonnes connexions. Ben, c'est ce que je te disais, en fait. On va donner la caution de Dresscode, de notre réseau, de notre network à cette marque pour qu'elle émerge avec la bonne relation, la bonne influenceuse, la bonne personne qu'il faut. C'est pas toujours évident parce que effectivement, on est dans un métier quand même où L'annonce média, bon, voilà, c'est quand même très important. Aujourd'hui, t'es pas annonceur, tu passes pas. Mais comme je te dis, moi, je crois encore au coup de cœur et aux rencontres. Donc, forcément, que on fait jouer nos relations pour que même une petite marque, tu vois, on a une marque, par exemple, comme Stella Pardo, elle va tout tricoter au Pérou, tout est sustainable, elle a une vraie, on a eu envie de l'aider. Dada, c'est pareil. Fête Impériale, c'est pareil. En fait, c'est des marques qui ont commencé à gravir les échelons, ils ont fait des jolis collabs, ils ont commencé à être connus. Mais on peut dire qu'on a participé au succès de ces marques pour les aider à monter. C'est pareil pour Oud. À la base, j'ai rencontré Patricia Bitton dans une boutique. Elle m'a dit qu'elle créait une marque. Il y a quelque chose qui s'est passé entre nous deux, on s'est revus. Elle a créé sa marque il y a 3 ans en janvier. 10 jours après, on faisait un événement presse. Elle n'avait pas vraiment de moyens. J'adore participer, d'être là au début d'action, même sans argent, même sans... J'ai toujours, comme je te disais au début, cette niaque pour faire monter les marques. Et en fait, même avec peu de budget aujourd'hui, on peut essayer de monter une marque en communication. Bah, quand tu as des attachés de presse déjà qui sont passionnés et qui se battent en face, qui te donnent le réseau pour le faire et que la marque, elle est en relais, ça veut dire voilà qu'elle va donner des produits facilement, qu'elle va peut-être faire des gifts, parce que même si elle peut peut-être pas acheter des choses en pub, etc. Quand tu, je dis pas que le gift va faire des choses, mais quand tu vas faire porter, voilà, il suffit qu'il y ait une influenceuse à porter un produit, ça va faire boule de neige sur l'autre et puis boum, ça va partir peut-être avec un bel article presse parce que tu as un bel article dans la presse ou dans un Vogue.fr ou dans un Elle.fr. Et là, comme elle va partir, en fait, il faut que la sauce elle prenne. Et moi, j'adore encore faire ça parce que je trouve que c'est super excitant. C'est génial de faire monter une marque, en fait.
Ouais, bah ouais, c'est hyper excitant, j'imagine.
Ben oui.
Alors, quand on a la chance d'avoir l'aide d'un bureau de presse pour des intros, etc., c'est une grande chance, mais tout le monde ne l'a pas. Encore une fois, il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, ça peut paraître un peu unfair parfois. Tu te dis, putain, mais c'est laborieux en fait d'aller chercher ces articles, d'aller chercher ces influenceuses, etc. Est-ce que toi, t'as 2-3 tips pour les approcher, pour approcher les journalistes, etc. Parce que c'est pas simple, parce que c'est un vrai travail. Enfin, tu l'expliquais très bien. Toi, ce réseau que tu as, c'est le résultat de 20 ans d'expérience, de métier, d'entretien des relations avec les gens, de dîner, de café, de journée presse, etc. Et quand on arrive tout frais sur le marché, comment on le fait et comment est-ce qu'on peut éventuellement accélérer ce processus ?
Ah, ça, tu veux dire que c'est, par exemple, on n'a pas accès à un bureau de presse, on le fait toute seule, finalement.
Ouais, exactement.
C'est un peu ça. Bah, écoute... Moi, je pense qu'il faut être... Tu sais, dans ce monde de médias, tout ce qui est un peu fait main, comme ça, un peu, pas à l'arrache, mais je veux dire un peu fait maison, bah, les gens, ils sont toujours un peu... J'ai vu plusieurs interviews qu'on a pu faire avec des jeunes designers où quand la personne a raconté son parcours, ils aiment les parcours intéressants, comment tu vas créer un... Enfin, comment tu vas créer ton storytelling, comment tu t'es faite toute seule, comment t'as monté ça avec rien. Et elles sont sensibles à ça, en fait. Donc, je pense que quand t'es sincère et que t'y vas dans ton projet, même quand t'as pas de bureau de presse, t'envoies des visuels, tu expliques ta marque, tous les ours de magazine, aujourd'hui, il y a tout partout. Concrètement, tu peux quand même essayer de faire une com par tes propres moyens pour commencer. Malgré tout, au début, tu vas avoir accès à un, à l'autre. La sauce, ça peut commencer à prendre, oui. Mais après, il va falloir se structurer avec le temps, évidemment. C'est ce qui s'est commencé avec des petites marques qui étaient des petites marques qui sont devenues des grosses marques, qui ont commencé un peu aussi avec des relations. Et il y a des marques qui sont venues me voir plus tard, alors qu'elles ont commencé un peu par leurs propres moyens. Elles ont fait une super com. Et puis après, malgré tout, tu tournes vite en rond. Il faut tout de suite trouver des nouveaux prétextes, y aller, et puis professionnaliser le tout. Donc, les jeunes marques, finalement, elles peuvent se lancer seules avec des rencontres, envoyer des mails. Sur Instagram, aujourd'hui, on peut faire plein de messages. Moi-même, sur Dress Code, pendant le confinement, j'ai contacté des gens pour faire des lives. Je les connaissais pas, j'y suis allée au culot, et ça a marché. Donc, ça veut dire aussi que quand tu contactes des rédactrices ou des influenceuses directement, que tu leur envoies, grâce à cette interaction d'Instagram, aujourd'hui, tout peut se passer. C'est un outil génial de com. Et Instagram fait partie des réseaux sociaux importants. Donc oui, je pense qu'avec du culot, avec une, un côté très, une vérité. Quand la personne est sensible, bah forcément, bah ça transpire et on a envie d'aider. Et par contre, ça peut aller pendant un temps, mais après, il faudra vraiment, pour moi, se professionnaliser et aller voir des gens dont c'est vraiment le métier, forcément. Mais au début, moi, je crois au lancement d'une marque aussi, quand on est un peu, comment dire, on sait y faire et qu'on essaye d'être agréable, de rester humble. Je pense que c'est des valeurs qui payent. Hmm.
C'est quoi ta vision pour Dress Code? Où est-ce que tu veux l'emmener, cette épopée? Parce que tu es encore très jeune, mine de rien.
Merci, Adrien.
Non, mais voilà, si on fait le calcul rapidement, tu as encore pas mal d'années devant toi. C'est quoi ton rêve le plus fou pour Dress Code?
Alors, mon rêve le plus fou, déjà, c'est que... j'ai envie de te dire, c'est de me développer encore. J'ai envie d'aller beaucoup plus haut en joaillerie. J'ai envie d'avoir accès encore à des très belles maisons, en horlogerie et en joaillerie. De développer tout ce côté designer, parce que c'est ce que j'aime foncièrement. J'adore ça. J'adore le travail.
C'est quoi, par exemple, les marques que tu t'adorerais, pour qui tu adorerais bosser?
Juste pour reprendre le côté designer, tu vois, par exemple, on travaille avec un jeune garçon, un jeune designer qui a gagné des prix LVMH Saint Martins, Benjamin Benmoyal, et il a fait des choses un peu recyclées en cassette vidéo, et j'ai adoré son travail. Et on a été contacté par une personne qui gère le sustainable chez LVMH, parce que du coup, il faisait partie de ce prix. Et là, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de s'en occuper. Pareil, faire découvrir d'autres choses, etc. Et du coup, déjà, avoir accès à ce genre de designer qui ont gagné des prix, essayer d'être de plus en plus très pointu dans l'offre dress code, ça, pour moi, c'est quelque chose que je veux vraiment développer. Évoluer en termes de designer, continuer d'être une référence, d'avoir des belles marques, que ça aille de Etta Marie Kiel à le designer qui va gagner un prix d'Andam ou de Hier, ça, j'adore ça aussi. Et en même temps, je pense que ce que j'ai envie de faire, donc de continuer de perdurer, d'exister et d'avoir cette même niaque pour mes équipes et dress code, et m'ouvrir à l'international, forcément. J'ai eu des opportunités d'ouvrir un bureau à New York, à Londres, on a regardé des choses, à Los Angeles, mais je trouvais que c'était tôt parce que malgré tout, je reste encore pas un nouvel acteur sur le marché, mais on a vraiment émergé depuis 10 ans. Et je pense qu'il faut prendre son temps de faire les choses. Et comme pour moi, tout est arrivé à un moment où je m'y attendais pas, je me dis que les choses, elles viennent souvent à moi. Quelquefois, quand je m'y attends pas, il y a des opportunités dans la vie que je saisis. Et je me dis que ça va arriver pareil pour d'autres opportunités de développer, par exemple, l'international. Un jour, je vais rencontrer quelqu'un qui va me dire « je peux t'ouvrir un bureau », peut-être m'associer avec cette personne ou peut-être lui donner le lead à New York ou à Londres parce qu'elle aura un savoir-faire que je n'aurai pas. Moi, je pense aussi que d'apprendre des personnes et de s'entourer, c'est très important. Moi, j'ai appris à m'entourer de gens qui ont beaucoup d'expérience. C'est le cas de Damien, de Lucie, de Valentine, qui sont mes adjoints, qui m'accompagnent depuis quelques années. Et ils ont des visions différentes. J'adore aussi apprendre en digital avec des gens qui m'apprennent au quotidien des choses, qui sont dans l'influence tous les jours avec leur portable, avec Instagram. Donc, je me nourris de ces gens-là. Donc, je pense qu'il faut avoir l'intelligence de se nourrir peut-être pour ouvrir avec des gens à l'international parce que j'aurais peut-être pas toutes les clés et se faire aider. Et ça, c'est ce que je vais commencer à chercher. Et en même temps, me développer dans l'hôtellerie, le lifestyle, la déco, la beauté. Pourquoi pas? C'est des secteurs que j'ai vraiment envie d'aller capter. Et pareil, je pense que ce sera des rencontres et des opportunités. Il faut pas brûler les étapes. Il faut aller step by step. Malgré tout, en 15 ans, je pense qu'on a fait, Dress Code aura 15 ans en août 2020. Je suis très contente de l'évolution. Quand je regarde le parcours, je suis très fière. Et ça a pu se faire que par un travail d'équipe. Ça a pu se faire aussi par des valeurs, par ma famille qui est très stable, mon mari qui me pousse, et par des gens qui croient en dress code et qui continuent de croire en dress code. Et je suis hyper contente de penser que La valeur travail, c'est ce qui fait ce que je te disais au début, c'est ce qui a fait le succès. Donc voilà, pour moi, c'est surtout ça, de continuer, de perdurer, d'exister, d'aller voir des nouveaux secteurs et puis d'ouvrir à l'international. Je pense que c'est le rêve de tout bureau de presse. Mais moi, c'est vraiment, j'ai monté les échelons doucement, on m'a pris au sérieux doucement et je pense que c'est important. J'ai encore pas mal de gens à convaincre. Il y a pas mal voilà, c'est sûr qu'il y a des marques que alors bien sûr, les marques de luxe, soit Kering, LVMH, en général, elles sont surtout en interne. Donc là, tu te dis, voilà, tu n'auras peut-être pas accès. Mais bon, voilà, Tiffany, à l'époque, quand on m'avait dit à 3 ans, tu vas aller rentrer, bah, j'aurais pensé que c'était un rêve éveillé. Et aujourd'hui, je le vis au quotidien. Donc, c'est génial, en fait. Et Riquel, c'est pareil, c'est une super opportunité pour nous. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut jamais dire jamais, se battre, aller voir des marques où tu sais peut-être même pas s'ils vont peut-être te regarder ou pas, mais t'y vas. Et je pense qu'avec de l'émotion, des valeurs, et je pense qu'on peut réussir à essayer de les sensibiliser, de les faire rentrer chez Dress Code.
Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de tes équipes, parce que bon, c'est quand même un métier d'humain. Enfin, c'est que de l'humain, quoi, en fait. Comment tu t'es entouré? Comment tu choisis les gens qui t'accompagnent et qu'est-ce qui fait un bon attaché de presse finalement?
Alors, je prendrais l'exemple. Bon, Lucie Chabria m'accompagne depuis des années. Ça fait 3 ans qu'elle est revenue à la maison. J'aime bien dire ça parce qu'elle avait commencé un stage ou un contrat de qualif chez Dress Code. On était rue Turbigo. C'était pas du tout la même agence qu'aujourd'hui. Et c'était il y a 10 ans. Et pour le coup, pour moi, elle a, même si elle a été ailleurs entre-temps, elle a fait ses armes, elle a su garder cette niaque. Pour elle, Dress Code, c'est vraiment la famille, la maison, quoi. Et c'est énorme parce que je me rends compte que ce soit Lucie, que ce soit Damien, que ce soit Val, que ce soit Inès, que ce soit... Enfin, je peux tous les citer parce qu'ils ont tous, pour moi, une place particulière. Juan, Bertie, Roxane, Chloé, enfin, toutes. Walid, qui est super sur les réseaux sociaux, qui nous aide beaucoup en community management. Claire, Sarah... Enfin voilà, je peux toutes les citer. Valérie qui m'accompagne dans la logistique du bureau au quotidien. Bah, ils ont tous envie de faire monter cette boîte. Et je pense qu'en fait, c'est aussi par le côté humain. Je pense que je représente quelqu'un de, je suis saine. Encore une fois, je reviens aux valeurs parce que pour moi, c'est le principal, c'est le principe du succès, c'est aussi d'avoir des bonnes valeurs dans la vie et ça te suit, ça t'aide. Et pour le coup, je pense que pendant le confinement, j'ai fait preuve de beaucoup d'humanité. On a fait beaucoup de challenges de sport ensemble. On a fait des apéros Zoom. On a été très en proximité. On a participé on a fait pas mal de moments ensemble, créé des moments. Et je pense que ça nous a beaucoup rapprochés. Et là, je vois cette niaque en ce moment depuis le retour du 11 mai. On est en équipe. On fait des roulements d'équipe pour la sécurité. Bah vraiment, elles ont envie de se battre, elles continuent d'essayer de faire grandir leur marque. Donc oui, je pense que le succès d'un bureau, c'est d'être bien entouré et d'avoir des très bonnes équipes. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui. J'ai eu des équipes aussi dans le passé qui ont eu des très beaux parcours après et qui avec qui je continue d'être en contact, qui ont beaucoup apporté à Dress Code à un moment donné. Mais je pense que la clé du succès, c'est d'avoir une très bonne équipe, parce que moi, je peux avoir toute l'énergie possible toute seule, on peut pas bâtir quelque chose. Donc je pense que mes équipes aujourd'hui, pour moi, une bonne attachée de presse, c'est quelqu'un qui est tenace, qui ne lâche pas. Moi, c'est mon mot d'ordre, c'est de jamais lâcher. De toute façon, on ne dit pas non, on y va. On va demander à la marque de quoi on peut avoir à disposition. Si vraiment on peut pas, on peut pas. Mais combien on a rattrapé de choses, et que quand elles m'ont montré le magazine ou l'influenceuse ou des résultats, elles viennent dans mon bureau, elles sont contentes, elles ont des paillettes dans les yeux. Ah là, je suis tellement fière, Johanna. Et je dis, ben voilà, ça, c'est le résultat de ton travail. Pareil, pendant les lives, on a contacté Linda Toll, qui est une super influenceuse étrangère, et j'ai dit à Walid, mais écoute Walid, il faut la contacter, on la connaît, mais si tu lui demandes de faire un live sur Dress Code et de parler de sa marque Toll, qui est beaucoup plus business, avec une fille qui est beaucoup plus business aussi, comme Jessica Michaud, je suis sûre que ça va le faire. Et en fait, boum, le live était canon. Et c'est pareil, toi, quand t'as contacté pour Réunique, t'as fait le live avec Clémence Pouget, qui est une super journaliste. Et ben voilà, tu vois, il y a des on s'est dit, il faut y aller. Quand j'ai contacté David Lucas par une rédactrice que j'adore, Beauté, qui m'a dit, voilà, Johanna, je te mets en relation avec David Lucas, et on a fait un live avec une influenceuse. Et ben pareil, j'y suis allée au culot, je le connaissais pas forcément. Donc je pense qu'en fait, je leur dis de ne pas lâcher et de se dire que tout est possible. Et c'est ce qu'elles font au quotidien avec leur marque, avec les rédactrices. Elles donnent des prétextes, elles les sollicitent. Mmh. Il ne faut jamais attendre que ça arrive, en fait. Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un bureau où elles viennent en shopping régulièrement, aussi bien les actrices, les influenceuses ou les stylistes de mode pour les sujets. Donc, bien sûr que c'est plus facile, mais tout ça, c'est pas arrivé comme ça. C'est pas du jour au lendemain où j'ai été le bureau où tout le monde venait pour prendre des vêtements. Ça s'est fait, encore une fois, à force de travail. Donc, voilà, c'est ce que je leur dis. Ne lâchez pas vos marques. Propulsez-les, essayez de trouver des nouveaux prétextes, parce qu'avec tout ce qui se passe sur le digital, les podcasts, les prétextes, les prises de parole, les lives, en dehors de tout ce qui se passe sur les médias print, il y a tellement aujourd'hui de multitudes de propositions pour faire émerger une marque, qu'il faut être force, justement, force avec leur marque d'être, comment dire, de faire preuve d'intelligence pour essayer de les faire émerger, en fait.
Trop bien.
Voilà, c'est ça une bonne attachée de presse.
Ouais.
Et pour moi, c'est toujours une attachée de presse d'ailleurs, parce que mon métier premier, c'est d'être attachée de presse, parce que j'ai toujours cette montée d'adrénaline. Quand on dit, là, on a dîné de très beaux papiers d'Ifani qui vont sortir dans le Vanity Fair, là, début juin. Magnifique. Et c'était, à la base, c'était plus possible parce qu'on n'a pas pu avoir l'interview. Le journaliste nous a dit quand même, c'est possible si on a des réponses que pour nous, juste en Q&A, etc. On s'est vraiment débrouillé. En fait, on n'a pas lâché. Ce papier sort en juin. Et avec les équipes qui s'occupent de Tiffany chez Dress Code, on a trop hâte. Donc, il y a toujours cette montée d'adrénaline. Et pour moi, s'il n'y a pas ça, bah, il n'y a plus d'attaché de presse, en fait. C'est le propre...
du métier.
Métier.
Ouais. Et moi, j'aimerais qu'on parle encore d'un petit sujet. C'était ton orga perso, parce que bon, genre, j'imagine que tu travailles beaucoup. Mais comment tu fais, toi, pour mener de front, pour gérer une boîte aussi importante avec autant de salariés, comment tu fais pour ne pas exploser en plein vol, quoi? Comment tu fais pour garder un équilibre, pour avoir une vie saine, parce que tu as quand même des enfants, tu as un mari, tu as une boîte avec beaucoup de salariés, avec beaucoup de clients, tu dois avoir une pression folle sur les épaules. Comment tu fais pour gérer tout ça, quoi? C'est quoi le secret, Johanna Sebag?
En fait, je me pose la même question. Tous les jours, je me dis, bon, alors, il va falloir que je structure ma journée, ce qui n'est pas facile parce que c'est rempli d'urgences et c'est rempli de choses qui arrivent comme ça. Alors déjà, comme j'ai dit, mon mari m'a toujours laissé m'épanouir et c'est ce qu'il continue de faire. Il me dit pas, oui, il y a les enfants, il y a ci, il y a ça. Donc, c'est vrai que c'est génial parce que du coup, j'ai une vraie liberté. Et ça me donne envie encore plus de faire des choses pour ma famille. C'est vrai que ma fille a grandi, donc elle peut un petit peu plus. C'est vrai que quand j'ai les soirées et tout, c'est très difficile de jongler avec la vie de famille et la vie la vie au boulot. C'est pas évident. Je pense que nécessairement, à un moment, je pense que je me suis remise en question parce que l'éducation des enfants, je voyais que ça n'allait pas, même s'ils étaient vraiment bien dans leur peau. Il y avait ma fille, c'est pas le même papa, etc. Donc, c'était pas évident. Il fallait aussi gérer ça. Ma fille, donc, avait 18 mois à l'époque, qui a aujourd'hui 16 ans. Et, elle avait 15 mois, à peu près, c'est ça. Et du coup, forcément que, la clé, c'est de discuter, d'être proche des enfants, d'essayer malgré tout. Alors, avec le Covid, on a retrouvé certaines valeurs à la maison qu'il y avait peut-être moins avant parce qu'on est pris dans un cercle infernal, que là, on s'est quand même posé pratiquement 2 mois ensemble, même si moi je bossais du matin au soir dans ma chambre, enfermée, en Zoom, en call, en avec les clients, les journalistes, on essayait de rien louper et d'être là dans tous les sujets qu'il y avait du Covid, les visuels, etc., qu'il fallait donner à la presse web. Malgré tout, voilà, je passais un moment avec eux le matin, l'après-midi, on se retrouvait le soir. Évidemment, il n'y avait pas toutes ces soirées, tous ces dîners, toutes ces obligations. te dire que c'est pas que c'est facile, c'est faux, c'est très difficile de tout concilier. Je le vis au quotidien, tous les jours c'est une nouvelle journée pour moi et je me dis que voilà, encore une fois, la personne qui partage ma vie effectivement et me laisse tellement m'épanouir que ça me donne une force, une vraie force et comme je crois que c'est la clé en fait, c'est que du coup j'arrive à gérer. Alors c'est pas tous les jours facile parce que bah, ma fille de 16 ans, elle grandit, qu'eux, ils ont des attentes. Mon fils a 11 ans, mon autre fils a 8 ans. Donc, c'est des attentes très différentes. Et il faut que je sois à leur écoute tout le temps, dans le travail, les devoirs, organiser à la maison, les profs, tout ça. C'est vraiment pas surtout en cette période-là, sans école. Mais voilà, j'arrive, j'ai une très bonne mémoire. J'arrive à structurer dans ma tête les choses et j'arrive à penser à tout. J'espère que ça va durer encore longtemps et que je vais pouvoir m'organiser comme ça parce qu'en fait j'ai besoin de cette stabilité dans ma famille et j'ai besoin d'avoir ce que je vis tous les jours au bureau en fait, cette passion. Donc en fait comme j'ai besoin des deux, il faut que je trouve toujours le bon équilibre entre les deux.
Si tu avais l'opportunité de poser une question à... Enfin non, non, c'est pas poser une question, ce serait plutôt de donner un conseil à Johanna Sebag, 20 ans, à la sortie de ses études. Qu'est-ce que tu lui soufflerais dans l'oreille ?
Ben, en fait, je lui soufflerais qu'il faut faire ce qu'on aime et qu'il faut aller au bout de ses rêves et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pas encore fini, mais en tout cas, pour l'instant, je suis très contente quand je fais le, quand je refais un peu les flashbacks en te parlant, je me dis voilà que je regrette rien et que il y a peut-être des choses que j'aurais fait peut-être différemment, mais je crois que c'est vraiment, voilà, tout est possible, on va au bout de ses rêves. Quand j'ai fait à 28 ans comme ça, complètement perdue et que j'ai monté ce bureau, bah, en fait, je me suis pas posé de questions, j'ai foncé. Et je crois que c'est là. C'est ce que j'aurais dit à Johanna Sebag il y a 20 ans, il faut foncer. Et d'ailleurs, c'est le conseil que certaines rédactrices de mode m'ont donné à 20 ans en me disant, tu sais Johanna, si on te contacte pour travailler, si on te contacte pour aller rejoindre des équipes importantes, c'est que tu as du potentiel, tu as quelque chose de fort. Et j'en avais pas conscience et je me suis remise en question et je me dis, ces gens ont peut-être raison. Donc voilà, j'ai écouté ces gens et je l'en remercierai jamais assez, en fait. Je ne remercierai jamais assez.
Très bien. Et dernière question, c'est une question que je pose systématiquement à tous mes invités, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ?
J'aimerais bien entendre quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Judith Milgrom. Qu'elle a une très bonne vision. La seule chose, c'est qu'elle n'est pas, je pense qu'elle n'est pas forcément à l'aise et que elle n'a jamais fait de podcast. Donc, on n'a pas encore testé. On devait le faire ensemble et on ne l'a pas fait parce qu'effectivement, elle était souvent en déplacement. Mais c'est vrai que c'est une femme que j'admire beaucoup et qui m'a beaucoup, beaucoup apporté dans ma carrière. Donc, voilà, c'est quelqu'un que j'aimerais bien entendre. Après, il y a des gens dont j'admire le parcours, c'est le cas de Simon Jacquemus, parce que j'adore. D'ailleurs, j'adore ce qu'il fait. Je trouve qu'il a su partir de rien pour faire. Enfin, moi, j'adore la mode Jacquemus, je la porte. Et je trouve que, voilà quelqu'un qui s'est battu avec niaque et force de travail, parce que pour le coup, il est parti de on l'a suivi au début avec sa piscine, et puis voilà où il en est aujourd'hui. Donc, je trouve c'est génial. Quand j'ai été à sa vente, d'ailleurs, il m'a accueilli lui-même, m'a fait faire le tour, etc., parce qu'on se connaît un petit peu. Et j'ai trouvé que je me suis dit, putain, mais c'est bien, il reste humble, il reste. Et j'admire ça, en fait, je trouve ça génial. Donc, oui, ça, c'est quelqu'un que j'aimerais bien entendre entreprendre dans la mode pour raconter son parcours, ses craintes du début, comment il a abordé les choses. Je pense que c'est intéressant, en fait. Et j'aime bien me nourrir des gens qui ont accompli de belles choses.
Écoute, si tu veux, Moi, alors, je vais te dire, je vais te faire ma wishlist. Parce que c'est ma ouais, wishlist, c'est bon, Simon Porte-Jacquemus, bien sûr, hein, quelqu'un que j'aimerais beaucoup avoir et qui m'est beaucoup réclamé. Morgane Cesalori de Cézanne, qu'on me réclame ouais. tout le temps. Et donc, je sais qu'elle est chez toi. Donc, une petite intro, ça serait avec grand plaisir. Judith Milgrom, forcément, dommage. Et puis, bah voilà, c'est déjà quand même pas mal. Hein, si tu me fais une intro à ces trois personnes-là, écoute. Je serais très reconnaissant.
Bah écoute, de toute façon, on bosse. Je trouve qu'on a une belle. On bosse bien ensemble, en tout cas. Et donc, ce serait avec plaisir de continuer à travailler avec toi dans ce sens. Voilà.
Trop bien. Bah, merci beaucoup, Johanna. Ravi d'avoir. D'en connaître un peu plus sur toi, parce que bon, on se connaît, mais on n'a pas forcément le temps de revenir sur toute une épopée. Et donc, c'est chose faite. Donc, j'espère que ça aura plu à nos auditeurs. Et puis, je te dis à très bientôt.
À très bientôt. Merci beaucoup. Salut, Adrien.
Salut, Johanna. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.